Alors, c'est vrai qu'avec l'allongement de la durée de vie et le nombre croissant de personnes âgées, eh bien, il y a de plus en plus de personnes âgées qui sont insérées ou qui doivent s'insérer dans la société. Leurs attentes, elles sont multiples, elles sont diverses, elles sont variées. Elles doivent pouvoir se loger, se déplacer, se divertir, accéder aux services publics, accéder aux activités culturelles. Et pour cela, eh bien, les collectivités locales, territoriales, doivent également les aider. On va voir comment, d'abord on va voir si c'est le cas, on va voir comment elles le font et puis on essaiera tout à l'heure en fin de conférence de regarder, faire un petit peu de prospective et de regarder en 2030 ce qu'il se passera en termes d'accessibilité. Alors, avant de regarder le futur, regardons déjà ce qui se passe aujourd'hui. La France semble quand même un petit peu en retard, madame, messieurs, en termes d'intégration de personnes âgées dans la ville. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Est-ce que nous sommes en retard en France?
Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, on s'y met actuellement, mais on a mis beaucoup, beaucoup de temps à s'y mettre. Je pense que M. Joly voudra aussi ajouter la chose. On a commencé à réfléchir et à faire des choses à l'étranger, dans certains pays européens en particulier, au niveau mondial. Et puis, chez nous, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que en gros, il y a quand même eu la canicule de 2003 qui a entraîné une prise de conscience et qu'il y a un certain nombre de choses qui ont pu changer. Mais c'est vrai qu'on est en retard, on était en retard en termes de mobilité, on était en retard en termes d'accessibilité hein, des logements, d'accessibilité des transports. Et si on regarde, par exemple, j'ai deux, trois exemples de villes, bon, le Danemark... par exemple,
Mais avant d'aller à l'étranger, ouais. Même, en France, on est en retard, c'est certain. Vous partagez la vie, la vision?
Alors, oui, on a mis du temps. Alors, dire qu'on est véritablement en retard, oui, on est en retard par rapport à ce qu'il faudrait faire, et il est quand même grand temps de prendre le problème à bras le corps. Maintenant, il est vrai que si on fait un petit retour en arrière, je pense qu'il faut rappeler un certain nombre de choses. Le fait que on est en début de siècle ça bouge sérieusement, d'ailleurs on le voit bien dans les semaines actuelles, à tous les niveaux, et que c'est pas simplement un phénomène français, c'est un phénomène mondial. Et quand on voit le passage du 20e au 21e siècle, je pense qu'il faut y revenir quand même un petit peu sur le plan historique, c'est que si vous regardez par exemple, puisque là on parle de personnes âgées, je pense qu'on parle d'accessibilité, donc on parle de personnes âgées aussi qui vont avoir des difficultés de mobilité, donc ils peuvent être dépendantes, comme d'ailleurs des personnes handicapées. Revenons par exemple aux années 1980, prenons l'Organisation Mondiale de la Santé, prenons la CIF, le classement inter des dépendances, et on parlait à l'époque d'incapacité d'incapacité et de dépendance, bien sûr, mais de désavantage. Et la partie désavantage par rapport à la partie médicale, elle était très pauvre. C'est-à-dire que pratiquement, on analysait une dépendance pratiquement sur le problème physique et médical de la personne. Et puis, arrive à peu près les années 2001, où là, les choses commencent à changer, puisque l'OMS change sa classification, on l'appelle la CIF, et on arrive dans une classification du fonctionnement, mais dans une classification beaucoup plus situationnelle. C'est la situation qui est handicapante. Bien sûr, la personne a des difficultés, mais c'est la situation qui est handicapante. C'est un vrai bouleversement dans les sociétés, puisque derrière, vous verrez, 2001, 2005, la loi de 2005, donc pour l'égalité des chances, participation et citoyenneté des personnes handicapées, sous l'égide de Jacques Chirac. Et cette loi a été un vrai booster, quelque part, sur ces problèmes d'accessibilité. On a retenu dans la loi essentiellement les problèmes d'accessibilité physique au bâtiment, mais l'accessibilité, vous le savez tous, hein, la loi dit à tout pour tous, et tout secteur, c'est-à-dire culture, école, etc. Mais cette accessibilité au bâtiment, elle nous arrive de plein fouet. Parce qu'effectivement, tout le XXe siècle a construit, c'est nous qui avons construit, nous, êtres humains, hein, on a construit pour nous, on a construit des bâtiments, on a construit des maisons, on a construit des unités de vie, on a construit des villes qui répondaient aux problématiques de l'époque, mais qui tout doucement sont arrivés jusqu'à la fin du XXe siècle avec un esprit très clair, c'est-à-dire qu'on va s'occuper des gens au corps sain, à l'esprit sain. On cache le handicap. Il y a une population des valides et une population des invalides.
On y viendra, monsieur. Alors simplement, en ce qui concerne les pays étrangers, visiblement en France, il y a eu deux déclencheurs. Hein. 2003, vous l'avez dit, madame. 2005, la loi pour l'égalité des chances. Mais à l'étranger, ça se passe comment pour qu'au moins nous ayons un point de comparaison avec ce qui se passe réellement à l'étranger?
Alors, je peux donner l'exemple de la ville de Salzbourg, par exemple.
Parlez bien près de votre micro.
Salzbourg, par exemple, qui était un modèle d'accessibilité, où on va jusqu'à la, on va très loin, puisque jusqu'à la formation des conducteurs et des d'autobus, des personnels, des aéroports, etc., sur les personnes avec handicap physique. Beaucoup de le Danemark également avec alors là on change de domaine, on n'est pas sur l'accessibilité mais sur la télésanté, hein, donc là on est au début des années 2000, il y avait quand même déjà des solutions de télésanté dans des villes, des programmes à Berlin également pour planifier les déplacements, pour aider les gens à trouver très rapidement des places de parking ou des trajets qui sont facilement accessibles. Voilà, Cracovie, enfin je veux dire, on pourrait multiplier les exemples, qui avait équipé donc tous ces autobus et tous ces tramways de planchers surbaissés, je pense. Voilà, donc nous, tout ça, ça se fait, hein, encore une fois. Mais
progressivement.
Il faut néanmoins le mettre en perspective, parce qu'on parle souvent des pays nordiques comme des pays qui sont l'apogée pour les personnes handicapées, les personnes âgées, l'accessibilité. C'est vrai sur un certain nombre de points, à la fois sur de l'accessibilité physique, je dirais les trottoirs, les bancs, les abribus, on en parlait, aussi sur les réponses en termes de services. Mais il ne faut pas non plus oublier néanmoins qu'en France, on a, je crois, 36 600 communes, que chaque commune a son identité. Et quand vous êtes une commune dans la région de Chambourcy, c'est pas la même, enfin de Chambéry, je parlais de commune de montagne, par rapport à une commune dans la Beauce ou à une commune dans le nord de la France, on n'est pas tout à fait sur les mêmes problématiques en termes d'accessibilité, de règlement des problèmes d'accessibilité. Donc vous voyez que c'est quand même relativement complexe, par exemple, par rapport à des villes allemandes, pour certaines d'entre elles qui ont été évidemment détruites et reconstruites, et dans lesquelles on a intégré ces notions de mobilité.
Ça a été pris dès le début comme une contrainte. Est-ce qu'on connaît, ou est-ce qu'on cherche à connaître, les besoins des seniors en termes de mobilité? Parce que c'est ça aussi qui est important. Visiblement, d'un côté, on essaie de répondre à des besoins, mais est-ce que ces besoins correspondent à la réalité de ce qu'attendent les personnes âgées?
Alors, juste par rapport à la question précédente, je pense que en termes de mobilité, on est plutôt en avance en France par rapport au contexte international. C'est-à-dire qu'on a des grands champions de la mobilité, SNCF, Keolis, Transdev, etc. On a été précurseur dans l'innovation de la mobilité partagée, de la mobilité collective individuelle avec les vélos, voitures en libre-service, etc., etc. Donc, d'un point de vue global sur la mobilité, je pense qu'on est plutôt en avance. Ensuite, il y a deux contextes territoriaux. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les zones urbaines et périurbaines, où il y a une multitude d'offres de mobilité qui répondent à la plupart des besoins hors seniors. Et il y a le contexte rural, où pour le coup c'est l'inverse. Il n'y a quasiment aucune offre de mobilité, à part sa voiture particulière et quelques offres de transport à la demande financées par les collectivités. Ensuite, par rapport à la question sur le transport spécifique des personnes âgées en situation de fragilité et de dépendance, nous, on est parti d'un constat, c'est qu'il y avait un vrai trou d'offres. Et donc, ce trou d'offres, on l'a identifié en France et ailleurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas identifié de vraies réponses à la problématique de besoin de mobilité des personnes âgées pour pouvoir se déplacer comme tout le monde, librement, en toute autonomie, dans un transport non stigmatisant.
Alors justement, quand même, là-dessus, est-ce qu'il y a des enquêtes qui ont été réalisées? Est-ce qu'on connaît les chiffres qui nous permettent de dire dans tel et tel secteur, eh bien, il y a des besoins d'accessibilité? Et on ne parle pas que de l'accessibilité, en tout cas pas que de la mobilité. Il y a de l'accessibilité à la santé, aux soins, c'est important. Il y a de l'accessibilité sur la culture, sur l'habitat. Est-ce qu'il y a des enquêtes là-dessus? Comment est-ce qu'on chiffre? Comment est-ce qu'on connaît ces besoins-là? Je reviens à ma question initiale.
Je pense que les besoins aujourd'hui, et encore une fois, depuis, on peut mettre une date butoir, qui est celle de 2005, c'était bien avant les besoins, mais avec cette problématique mise en avant d'une terminologie comme l'accessibilité, on se rend compte que tous les services, tous les lieux ne sont pas accessibles à l'ensemble de la population. Donc finalement, derrière cela, on s'est dit à quelle population on s'adresse. Donc on s'adresse à la population des personnes handicapées, mais qui représente globalement, si on prend une perte d'autonomie sur un geste, par exemple sur les grilles GIR, on va dire il y a 6 millions de personnes avec des typologies de handicap différentes. Mais dès qu'on s'est rendu compte qu'on est arrivé dans les années 2050 à 15 millions de personnes vieillissantes, voire plus en 2060, on s'est dit là, il y a un vrai problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait en termes d'adaptation des villes et qu'est-ce qu'on a en termes en poche d'adaptation des services pour cet ensemble de la population qui, si on ne fait rien, va être pris en charge par qui ? Par la collectivité ou par nous, personnes individuelles, par rapport à nos familles et nos personnes âgées qu'on va garder chez nous, mais est-ce qu'on peut les garder le plus longtemps possible chez soi ? C'est des choses qui sont apparues. Et est-ce qu'une personne veut rester le plus longtemps possible chez soi ? Certes, oui, mais dans quelles conditions ?
À ce sujet, madame, oui. Et après je vous redonne la parole, mais à ce sujet, il y a une enquête qui dit que 90% des personnes âgées souhaitent vieillir chez elles.
Oui.
Donc ça veut, c'est quand même majoritaire. Et c'est important à prendre en compte.
Alors oui, mais je pense que tout le monde est d'accord sur ce fait que c'est une très très grande majorité. Quand vous posez la question là, sur les besoins des personnes âgées, je crois que pour qu'une personne âgée puisse vieillir de façon autonome sur un territoire, il faut que ce territoire offre un maximum de services. Et ça c'est une chose qui est essentielle. Et c'est pour ça que le fait d'adapter, par exemple, un logement, de le rendre facilement accessible à la personne en se disant qu'on va aider à sa mobilité, si derrière, au niveau du territoire qui est environnant, un territoire proche, il n'y a pas suffisamment de services, et si la personne ne peut pas sortir de chez elle facilement, c'est-à-dire de façon très très proche, eh bien, on a tout faux et en fait, on ne résout pas.
On a tout faux. Et on a tout faux quand même, parce que ça commence.
Parce que la personne ne peut pas vivre, oui. Et elle va s'enfermer.
Oui, ce que vous dites, c'est que tout est lié.
Tout est lié.
Tout est interdépendant. Effectivement, il faut que l'habitat corresponde aux solutions de mobilité, que la solution de mobilité corresponde à la solution de santé, et ainsi de suite. Alors, tout ça, c'est bien, le constat, on est d'accord, mais alors pourquoi ça ne se fait pas?
C'est pas que ça se fait pas, c'est qu'il y a une loi qui oblige à faire aujourd'hui quand même, mais qu'elle n'est pas forcément complètement suivie. On est quand même dans cette, toujours on rappelle les mêmes choses, mais qu'on est dans cette chaîne de déplacement. Donc ça, on a bien pris en compte les besoins. Maintenant, il y a une sensibilisation des acteurs, à la fois publics et privés, sur lesquels on n'a pas forcément les mêmes niveaux. Puis on a des institutions qui aujourd'hui fonctionnent d'une certaine façon, qui font que c'est assez difficile de mettre en place toute l'accessibilité qu'on aimerait, qu'on voudrait, et puis tous les services qu'on aimerait, qu'on voudrait. Et puis il y a des choses qui arrivent. Les nouvelles technologies font qu'aujourd'hui, on a des services qu'on ne pouvait pas imaginer il y a même simplement une dizaine ou une quinzaine d'années, qui vont vraiment apporter de l'autonomie aux différentes personnes.
Oui, l'accessibilité, encore une fois, c'est l'affaire de tous. Et c'est pas que l'affaire de la loi. Enfin, la loi, elle peut aider, mais...
C'est pas que l'affaire de la loi, bien sûr. Si en soi, demain, chacun d'entre nous, et c'est vraiment la problématique, à chaque fois qu'on va définir une nouvelle activité, à chaque fois qu'on va créer quelque chose, on a ce geste conceptuel. Ça doit s'apprendre à la crèche. L'accessibilité, c'est un mot barbare, mais ça doit s'apprendre à la crèche. Parce que effectivement, dans notre geste conceptuel, quel qu'il soit, entrepreneur ou institutionnel, on doit se poser le problème. Oui, mais pour qui on fait ça ? Le corps humain est interdépendant du corps urbain. Et c'est ça la nouvelle donnée aujourd'hui. C'est ça la nouvelle tendance. C'est-à-dire qu'on ne veut plus que notre urbain nous rejette. On veut que notre urbain participe à notre mieux vivre, à ce fameux vivre ensemble.
Oui, c'est ça. Tout à fait. Vous vouliez réagir?
Oui, une remarque par rapport à ce que vous disiez, Bernadette. Quand on a lancé l'entreprise il y a 3 ans, on a fait un tour de France donc pendant un mois à temps plein, donc dans des grandes villes. On s'est arrêté dans des grandes villes et des petites villes, des toutes petites villes. Et donc on discutait à chaque fois dans chaque ville, chaque village, avec les élus et avec les citoyens âgés. Et le constat était exactement le même, c'est-à-dire que les élus ne savaient pas trop comment résoudre des problèmes, les citoyens âgés ne savaient pas quoi faire, et les élus nous expliquaient qu'il y avait énormément d'offres de services, d'événements, de spectacles à disposition. Et donc il y avait un problème d'agenda, d'information, effectivement d'offres de mobilité. Mais là, on voit bien qu'il y a de l'offre, il y a de la volonté de part et d'autre, et il y a probablement des choses assez souples à mettre en place pour permettre que les uns et les autres se rejoignent.
Mais est-ce que ça veut dire, pour être clair, et si j'ai bien compris vos propos, est-ce que ça veut dire que les gens, les différents acteurs, doivent s'habituer à travailler ensemble ? Ce qui n'est pas tout à fait le cas, a priori, si j'ai tout bien compris.
Non, mais là, je ne sais pas, c'est l'un de nous deux. C'est évident. On est obligatoirement dans la transversalité. Rien ne peut se faire sans que les personnes, les usagers soient consultés, sans que les services s'imprègne aussi de cette nouvelle façon de travailler et d'avoir le souci à chaque fois que quelque chose est mis en place, le souci que ça puisse servir à tout le monde, que ce soit ouvert.
Alors nos regards se sont croisés parce qu'effectivement la notion de transversalité, c'est une notion évidemment forte. On peut l'appeler horizontalité par rapport à une verticalité, mais il est vrai que aujourd'hui, même moi je vois bien au niveau de la commune dans laquelle je me trouve, on a toujours des difficultés à faire comprendre aux services qu'il faut effectivement qu'ils travaillent de façon transversale, parce que sinon, entre la voirie, entre l'urbanisme et les autres services, on va créer des bouts d'accessibilité, puis au final, ça ne va pas répondre au plus grand nombre en situation de dépendance. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire une formation, une écoute et une information des différents services avec la volonté de travailler différemment. Mais ça, c'est une volonté politique, quelque part. Il y a une volonté des services, mais il y a une influence politique forte, je veux dire, dans les communes à avoir sur le sujet. Et en France, dans nos 36 600 et quelques communes, la volonté politique sur ce sujet-là n'est pas de façon égale. Et ça, c'est là que ça devient complexe. Et là, il y a un vrai problème.
Hein. Vous commencez à répondre à ma question de tout à l'heure qui était mais pourquoi ça ne bouge pas si vite? C'est que quand même l'impulsion politique, elle va au rythme de l'impulsion politique. C'est-à-dire pas toujours aussi vite que la réponse aux besoins qui se font jour.
On a créé une loi qui nous dit, qui nous oblige à faire de l'accessibilité, mais on est gaulois quand même. Donc effectivement, on ne fait rien si on ne nous colle pas une prune. Donc il y a peu de temps, au mois de mai, on a sorti un décret sur les pénalités, notamment pour les adaptes, la mise en application des équipements recevant du public. Ça fait frémir les gens. C'est-à-dire que effectivement, la deadline qui disait vous allez avoir des punitions, vous allez avoir des prunes, vous ne pourrez pas ouvrir votre cabinet médical, mais vous ne pourrez pas non plus ouvrir votre boutique, alors ça fait remuer tout le monde. On a eu des dossiers partout. Comment on traite les dossiers dans les directions du territoire? Cet afflux de dossiers, comment on le traite? On met des avis favorables, on met des avis défavorables. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que le commerçant qui, dans son commerce, il a bien d'autres chats à fouetter que celui-là, puis c'est un impôt en plus pour lui, parce que ça a un coût, l'accessibilité. Donc oui, on voit le coût de l'accessibilité et on ne voit pas le profit que ça peut apporter au niveau de la société. Et quand on part par là, donc on est obligé quelque part de dire on va vous mettre des punitions parce que sinon les gens feront rien. Et aujourd'hui, avec ce décret qui vient de sortir au mois de mai, ça y est, on voit de nouveau un petit peu un frémissement dans la population des acteurs pour se dire on va se rendre accessible. Donc quand on se rend accessible, c'est que nous, seniors, ou quelqu'un qui est multiple petit handicap ou grand handicap, chez les personnes âgées vieillissantes au-delà de 83 ans, parce que c'est la moyenne qu'on prend, on pourrait néanmoins refaire ses courses et autres. Sinon, on ne peut pas le faire.
Vous vouliez réagir?
Oui, mais c'était juste pour donner un exemple de ce nécessaire recours à la transversalité. Dans une ville que je ne nommerai pas, et quand on a voulu faire un diagnostic pour cette ville qui voulait donc adhérer au programme Ville Amie des Aînés. Donc on part d'un diagnostic. Pour faire ce diagnostic, il faut quand même une connaissance fine de tout ce qui se passe dans la commune. Mais ça a été extrêmement difficile parce que les statistiques, il fallait aller les pêcher dans tous les services. Et c'était complètement cloisonné.
Mais il ne faut pas oublier de dire non plus que les services doivent aller les chercher dans la ville. Et ce n'est pas simple.
Donc chacun doit y mettre du sien, quoi. On peut retenir ça, chacun doit y mettre du sien. Madame, je voudrais que vous gardiez le micro de mute parce que, en termes d'initiative, en tout cas de mobilisation, je crois qu'il y a un label qui s'appelle, c'est un label que vous connaissez bien, qui est le label Ville Amie des Aînés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce label?
Alors, je vais d'abord vous dire que j'aime pas le mot label. Voilà, c'est une certification, enfin c'est pas non plus une certification, moi c'est pas facile à dire. Donc je vais vous expliquer plutôt ce que c'est que la démarche, que c'est que le programme, puisque c'est un programme de l'OMS, qui est un programme donc qui s'adresse à tous les pays, tous les continents. Pour l'instant, il y a à peu près un millier de villes qui sont concernées. C'est né donc ça part de l'OMS, donc ça part d'un besoin d'améliorer la santé. Donc ça date de 2005. En 2005-2006, il y a eu donc une trentaine de villes qui ont commencé à travailler en demandant aux personnes âgées de faire état de leurs besoins. Et à partir de là, donc, il y a eu à Vancouver une réunion de ces villes et il en est sorti ce qu'on appelle le protocole de Vancouver, qui est une sorte de guide, de conseil pour des villes puissent entrer dans cette démarche. Alors l'idée qui est dans cette démarche, c'est que, et M. Joly va être d'accord complètement avec cette démarche, et ce que je vais dire, c'est que en fait, la santé des personnes, elle n'est pas seulement liée à ce qu'ils peuvent avoir comme problèmes physiques ou mentaux ou autres, mais c'est bien une interaction avec l'environnement. Et donc, à chaque fois qu'on va pouvoir jouer sur l'environnement, améliorer la vie quotidienne des gens dans tous les aspects de leur vie, eh bien, on va pouvoir faire qu'ils restent autonomes le plus longtemps possible et qu'ils vieillissent en meilleure santé possible. Donc ça veut dire qu'il y a 8 domaines qui ont été identifiés. Donc ces 8 domaines, je serais obligée de vérifier sur mes notes pour ne pas en oublier un, mais il y a donc les espaces, l'environnement, donc l'habitat lui-même, les transports publics, mais il y a aussi tout ce qui est lié aux aspects social, parce qu'une personne vit dans un environnement et a besoin de liens sociaux. Donc il faut autour qu'il y ait une communauté qui offre un certain nombre de services, pas seulement des services de santé, il faut aussi qu'il y ait des services au niveau culturel, parce qu'une personne qui n'a aucun accès à la culture va être une personne qui va se replier. Une personne qui ne fait pas de sport va être une personne qui va développer des problèmes physiques. Et puis également donc tout ce qui est information. Donc ça, c'est un volet que je trouve extrêmement important parce qu'il y a beaucoup de grandes villes en France et partout où il se passe un nombre très important de choses, mais l'information ne passe pas. Il y a beaucoup de gens qui ignorent hein, tout ce que leur ville met à disposition parce qu'on ne sait pas où trouver l'information. Et puis, donc voilà, donc tout ça, ça s'inscrit aussi dans une lutte très forte contre l'âgisme, qui est une attitude. Donc on est dans une attitude face au vieillissement, un vieillissement actif. Voilà, j'essaie de résumer.
Très bien, donc je sais que vous n'aimez pas le mot, mais il est écrit comme ça, c'est le label Ville
voilà,
Amis des Aînés.
C'est un label, c'est pas une certification.
Pas de problème. C'est donc déclenché par l'OMS, ce qui veut dire que c'est mondial.
Oui.
Est-ce qu'on sait les villes qui sont rentrées dans ce protocole, dans cette certification, dans ce label en France?
Ah oui, il y en a. Alors actuellement, en France, on a un réseau francophone, Ville Amis des Aînés, et donc c'est le réseau francophone hein, qui s'occupe des villes francophones et puis donc particulièrement françaises. On en a plus d'une cinquantaine, et en tout, adhérents, on en est à 71, je crois que c'est le dernier chiffre, parce qu'il y a aussi des associations, des communautés de communes qui adhèrent. Alors, l'intérêt d'un réseau, c'est aussi que les adhérents peuvent échanger, peuvent apprendre les uns des autres, parce que ça aussi, ça fait partie de la démarche. C'est toujours un travail en réseau à l'interne au niveau de la ville, mais aussi vers l'extérieur, apprendre des autres, apprendre aux autres et échanger.
Merci, mais monsieur l'élu que vous êtes, or l'architecte, 71 villes, hein, c'est ça? Sur 36 000 communes.
71 villes et associations.
Oui, mais ça reste marginal.
Ben, c'est récent, je ne vous ai pas donné la date de départ.
Oui, ça reste bien sûr marginal, mais il y a encore là une spécificité française. Sur 36 600 et quelques communes, les communes de moins de 5 000 habitants représentent 34 600 communes, qui regroupe à peu près 15% de la population française, et puis les communes de plus de 10 000 habitants, vous en avez à peine 1 000, qui représentent 85% de la population française. Donc l'échelle, il faut la comparer à échelle comparable, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des problèmes, effectivement, dans la ruralité, dans les zones rurales, par rapport au vieillissement de la population, et là, il y a peut-être des outils, aujourd'hui, des services comme tels que le taxi partagé, hein, tels que le vôtre, qui peuvent être des solutions vraiment très importantes, parce que avoir un bus accessible, qui passe de ville en ville, de village en village, ça peut se faire, mais ça reste compliqué, c'est du matériel à 30 ans, alors que la loi oblige hein, à le faire malgré tout. Donc tout ça est encore une affaire de coût, c'est complexe. Est-ce qu'on ne peut pas trouver des solutions modulées? Et là, on a véritablement des solutions modulées. Mais quand on revient, juste pour finir, à l'urbanité, à la ville, il faut savoir qu'aussi avec le développement de la population, hein, on est 66 millions, donc mes 85%, vous voyez où ils se trouvent, et ils vont grossir. On se prend 30 millions par 100 ans, là, en ce moment. Hein. Donc vous voyez ce que ça va donner au niveau de l'échelle de urbaine des villes qui deviennent des mégalopoles.
Absolument. Je voulais revenir parce que ce qui vient d'être dit jusqu'à présent, c'est qu'il faut aussi, pour bien accueillir nos seniors dans nos villes, du lien social. Ce lien social, ben, vous le créez au travers d'autres initiatives un petit peu.
Oui, il y a deux choses dans ce que vous avez dit qui sont très, très, très importantes. C'est la forme physique et morale et le lien social. Et donc, on parle beaucoup de maintien à domicile. Donc pour pouvoir rester à domicile, donc il faut des services à domicile, de la téléassistance, etc. Mais il faut aussi pouvoir en sortir, parce que si on n'en sort pas, ça ne marche pas. Et c'est en sortant du domicile qu'on garde une bonne forme physique et morale. Et c'est en sortant du domicile qu'on conserve un lien social et qu'on développe un lien social. Et donc, dans le cœur du dispositif, c'est évidemment central de prendre en compte cette notion de lien social. Et donc, voilà, il y a des acteurs très numériques qui fonctionnent de façon complètement automatique avec deux smartphones qui se parlent. Et il y a des acteurs, nous on se définit comme humérique, c'est-à-dire humain et numérique, parce que l'humain est nécessaire pour que la relation puisse fonctionner, au-delà du fait qu'il faut comprendre la subjectivité de la personne qui est en face, il faut aussi être en capacité de créer ce lien social qui est absolument fondamental.
Oui, donc il y a des choses qui peuvent être impulsées par la loi, c'est clair, mais il peut y avoir des initiatives privées qui viennent enrichir ce que peut dire la loi et mettre en avant le rôle des uns et des autres dans la cité.
Il faut surtout que la loi ne soit pas un carcan ou qu'on le considère comme tel à toute initiative justement sur le domaine, parce que il faut pas être normatif à fond, voilà. Et aujourd'hui on est quand même un petit peu dans ce schéma là et donc les initiatives de service sur le sujet, elles restent quand même assez limitées, je dirais, et en tout cas elles vont pas forcément attaquer les bonnes cibles. Et c'est là où vraiment on aimerait trouver une ouverture, un état d'esprit beaucoup plus ouvert sur ces sujets d'accessibilité, ces sujets de dépendance, ces sujets de handicap qui font encore peur à la société et qui ne doivent pas faire peur à la société. C'est notre société. Elle est comme ça.
Oui, complètement. Vous êtes d'accord ?
Ah oui, absolument. Après, la loi impose des choses. En 2005, elle imposait, 10 ans plus tard, d'être aux normes sur tous les territoires, ce qui était impossible. Donc les services de transport accompagné comme nous sont des alternatives qui permettent de compenser ce qui n'est pas possible de corriger. Quand une personne qui habite au troisième étage avec un ascenseur et elle doit se déplacer dorénavant en fauteuil et le fauteuil ne rentre pas dans l'ascenseur, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, elle ne peut pas sortir de chez elle parce qu'au rez-de-chaussée, il y a 3 marches. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, donc il y a des alternatives qui permettent de combler des infrastructures qu'on ne va pas pouvoir mettre à niveau partout.
Sachant néanmoins que demain c'est demain, ça arrive tout de suite, sachant néanmoins que demain, alors que c'est un item qu'on ne prend pas forcément en compte dans l'accessibilité, pour vos marches, pour votre ascenseur, sachant que demain, on va avoir une évolution des systèmes de transport, c'est-à-dire, là je parle du fauteuil, par exemple, pour être clair, du fauteuil roulant. Aujourd'hui, vous avez une gamme de fauteuils roulants, alors c'est pas encore tout à fait vrai ce que je vais dire, mais vous en avez qui montent les escaliers, vous en avez qui vont déployer des pattes et qui vont monter, on voit ça sur Internet, notamment au Japon, etc. On va avoir toute la robotique, notamment une humanoïde ou autre, qui est en train de se développer. Donc les marches sur lesquelles on dit qu'il faut casser toutes les marches de France pour mettre des rampes qu'on ne peut pas mettre, parce qu'effectivement le trottoir il fait 40 cm, pour pouvoir monter un fauteuil, parce qu'on refuse, souvent le peuple des valides, hein. Pas forcément la personne en fauteuil, ce qu'elle veut, c'est son objectif. Et elle veut rentrer dans la boutique, qu'il y ait une personne, bien sûr, alors je vais peut-être me faire griffer, mais qu'il y ait une personne qui pousse cette personne, qui l'a, sans compassion. C'est-à-dire que moi, je veux aller chercher ma confiture au bout du rayon, j'ai 2 marches, mais le gars, il ne peut rien faire parce que je suis en plein quartier historique, mais tout de suite, il y a une sonnette d'appel, on vient, on le prend, on peut monter le fauteuil, ou il y a un système qui est adapté, qui le fait que, ma personne handicapée, je dirais, même moi, si j'étais handicapé, je peux aller chercher mon pot de confiture. Et c'est ça, mon objectif. Oui. C'est pas de râler parce que j'ai 2 marches et je me trouve devant, parce qu'il n'y a rien de fait.
Non, mais c'est
donc il y a une évolution des matériels et des technologies.
Et on gardera cet aspect pour la fin, parce qu'on va venir sur 2030. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on dévoile trop le sujet. Mais concernant le lien social, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'encore une fois, c'est l'affaire de tous. C'est l'anecdote que vous venez de donner. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout attendre de la loi, il ne faut pas tout attendre des privés. Chaque citoyen est aussi responsable de l'intégration des personnes âgées dans la cité. C'est l'affaire de tout le monde. Chaque citoyen. Cette fois-ci, je parle bien du citoyen. Et je vais vous emmener sur une idée, parce que l'objectif de ma question, c'est de vous emmener sur quelque chose qui est un petit peu à la mode aujourd'hui. pour l'intégration des personnes âgées dans la cité, c'est la colocation intergénérationnelle. C'est bien la colocation intergénérationnelle de mettre une personne âgée avec un jeune. Non, c'est bien, c'est pas bien. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah, écoutez, c'est vrai que ça commence à prendre un petit peu en France. C'est une idée...
En tout cas, il y a des reportages en permanence à la télévision sur le sujet.
Oui, tout à fait.
Donc ça devient un fait de société.
C'est une idée qui est née il y a quand même pas mal d'années à Barcelone, dans les années 90.
Hein, encore une fois, on
n'a
rien inventé. Quoi.
Mais on le reprend, et c'est très bien. Donc partant du constat qu'effectivement, les personnes âgées et puis les étudiants ont souvent en commun le fait qu'ils sont isolés, le fait aussi qu'ils ont peu de moyens financiers. Donc, ça répond aux besoins de certaines personnes âgées d'avoir une compagnie, d'avoir une présence en tout cas, ce qui peut rassurer aussi les proches de savoir que la personne n'est pas seule le soir. Alors, il y a plusieurs formules, ça passe par des conventions, bien évidemment. Il y a plusieurs degrés. Hein, dans certains cas, les étudiants sont amenés à participer un petit peu financièrement. Dans d'autres cas, ils s'engagent à être présents tous les soirs et puis le logement est gratuit, etc. Donc il y a pas mal de possibilités. C'est porté donc par des associations.
Ah oui, pardon, je vous interromps là-dessus parce que moi, je croyais que c'était une démarche totalement privée. Je suis un jeune étudiant. J'ai pas un logement, donc ce que je vais faire, je vais aller voir une personne âgée, puis je vais m'arranger avec elle, quoi.
Il y a quand même des associations qui s'occupent de ça, et puis c'est encouragé au niveau gouvernemental aussi.
Oui, mais il y a toujours à la base une initiative personnelle, à un moment donné.
Mais il faut que ce soit cadré.
Oui, mais je pense qu'il faut quand même faire un petit retour en arrière et visualiser avec de la hauteur notre société aujourd'hui. Notre société aujourd'hui, si je reviens en arrière, on vivait avec nos parents ou les enfants dans la maison, on avait nos aînés à la maison et on les conservait jusqu'à leur décès et puis ensuite ça continuait parce que nos maisons permettaient ça. Quand on est venu créer l'urbanisation, nos maisons, elle a éjecté tout ça. Donc, les personnes âgées d'un côté, les gens bien portants, attachés caisses, valises et tout, tout va bien dans une maison standardisée, presque lyophilisée, hein, vous savez, comme le sucre qu'on met dans le café, pouf, ça sort, pièce fonction, chambre, couloir, cuisine. Alors, une chambre pour chaque enfant, bien sûr, comme ça, après, on se pose des questions aujourd'hui sur le fait que les gens communiquent plus. Une chambre pour chaque enfant, quand même. On a fait ça pendant des décennies. Donc, il faut quand même se poser des questions. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une société où... je vais peut-être légèrement déborder, mais pas trop, où le pouvoir, malgré tout, allez, je le dis, du capital, fait que on arrive à des loyers où nos enfants ne peuvent même plus les offrir, on arrive à des coûts de services et de produits où toute notre société a été basée sur l'envie. Nos parents nous ont donné l'envie d'acheter. Il faut travailler pour qu'on puisse payer une machine à laver, par exemple. Et on peut plus l'acheter. On peut plus vivre dans un logement. On peut plus avoir un logement seul. Donc on arrive au logement partagé. On arrive aux services partagés. On peut plus garder nos personnes âgées. Alors bien sûr, un des problèmes, c'est l'isolement des personnes âgées. Donc on dit, c'est des réponses. Et donc, la société de nos jeunes est en train de s'adapter à ces problématiques que l'on leur a créées aujourd'hui. Et la réponse, elle ne va pas venir de nous, elle va venir d'eux. C'est là qu'elle vient la réponse. Et on a surtout intérêt à les regarder près de nos jeunes parce qu'ils ont en portefeuille toutes ces réponses que nous attendons, nous, aujourd'hui. Alors après, que des associations se mettent en place pour faire du logement copartagé. Moi, j'ai parlé d'habitat générationnel il y a, bien sûr, presque 20 ans. Une des premières communes, c'est Chambéry, que j'ai cité tout à l'heure, au niveau d'un bailleur public, office d'HLM, qui dit « on va faire de l'habitat générationnel ». Vous savez d'où c'est venu ? C'est venu du fait que, m'occupant, évidemment, des personnes très gravement handicapées depuis plus de 30 ans, je les ramène à domicile depuis 30 ans en France, ou sur des très grands handicaps, notamment des troubles cognitifs, on ne peut pas faire autrement que d'avoir un lien familial. Lien familial, on est dans une société où le divorce a explosé, où il n'y a plus de liens familiaux. Mais on peut en retrouver, parce que la famille, c'est pas des enfants, c'est aussi une famille élargie.
Je crois monsieur voulait réagir.
Juste en complément, on vit aussi une période de plateformisation de l'économie. Donc Uber a lancé le bal. Ça touche tous les pans de l'économie. Et donc on l'a vu plus récemment, je crois, mais je n'ai pas eu l'occasion de trop creuser ce sujet-là, sur effectivement la colocation entre seniors et jeunes.
Il y a aussi un aspect...
Il y a quand même un encouragement fort du gouvernement, donc avec un toit de génération. Donc il y a quand même une volonté politique aussi que ce type de choses se mettent en place. Alors, Bon, il y a toutes sortes de choses aussi, hein, pas que cet intergénérationnel avec les étudiants. Il y a quand même aussi des coopératives qui se mettent en place, des gens qui veulent vivre ensemble. Là aussi, il y a des exemples qu'on peut prendre aussi à l'étranger, mais en France aussi. Hein, il y a y compris les appartements, ce qu'on appelle biome, avec deux entrées séparées. Enfin, il y a des tas de choses.
Vous pouvez développer juste deux secondes cet aspect-là. Moi, je ne le connais pas, si vous pouvez le développer.
C'est l'idée d'un appartement partagé, mais ils sont côte à côte, de façon à ce que chacun garde une certaine autonomie. C'est ce qui permet à la personne de ne pas être complètement seule. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que l'offre elle soit importante et que chacun trouve ce qui lui convient et qu'à aucun moment on puisse forcer qui que ce soit, parce que c'est plus facile quand c'est la famille. Mais prendre un étranger chez soi ou vivre chez une personne qui n'est pas sa grand-mère, c'est pas si facile.
Mais
donc, que ce soit bien accepté. Et puis, il y a d'autres formes. Hein. Il y a des personnes qui vont se regrouper dans des appartements partagés parce qu'ils partagent les mêmes valeurs, ils ont les mêmes sensibilités. Voilà, il y a toutes sortes de choses qui existent, y compris d'ailleurs des religieuses ou des choses comme ça. Tout existe et c'est bien que tout existe.
Super, je vous garde sur le thème du regroupement, mais vous allez tous pouvoir réagir là-dessus. En France, quand on parle de politique, il y a aussi l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, qu'est-ce que ça a à voir avec l'intégration des personnes âgées dans la cité ? Eh bien, il y a peut-être un lien. Quand on regarde la carte de France, on voit qu'il y a plus de personnes âgées dans le sud de la France, et on comprend bien pourquoi, plutôt que dans le nord ou dans l'est. Comment est-ce que les pouvoirs publics peuvent répondre à ça ? Parce que ça veut dire qu'à une période de l'année, on a beaucoup de personnes âgées sur la Côte d'Azur, et qu'à une autre période, on va en avoir un peu moins, ou peut-être d'ailleurs tout au long de l'année, parce qu'il y a le soleil. Est-ce que les pouvoirs publics ont un rôle à jouer là-dedans ? Est-ce que les municipalités ont un rôle à jouer là-dedans pour répartir peut-être plus correctement cette population ?
Répartir la population sur des critères qui sont propres à chacun d'entre nous, c'est un peu compliqué sur le plan national. Qu'il y ait plus de personnes âgées dans le sud de la France ou qui passent leurs vacances dans le sud de la France, bon, on a tout de suite compris qu'il y avait du soleil, qu'il y avait la mer, donc on descendait plus. Et puis une fois qu'on a passé une vie ou une carrière dans le nord de la France, on a envie de descendre dans le sud. Quand on a vécu quelques années dans le sud et qu'on est du nord de la France, on a envie d'y remonter. Mais on a cassé ses économies, on a vendu sa maison, on a fait sa maison dans le sud de la France. Bon, autant dire que là, il y a une action à avoir de prévention, parce que vous allez faire votre maison, donc faites attention, parce qu'il se peut qu'un jour, vous ne serez peut-être jamais dépendant. Je veux dire, une personne, ce n'est pas parce qu'on a 80 ans ou 100 ans qu'on est dépendant. Il y a des gens qui vivent très bien en autonomie, mais quand même avec des multi-petits handicaps. Donc, c'est plus des actions de prévention, des actions d'information que peut avoir, je dirais, le gouvernement, même sur le plan national, sur ce sujet-là, en insistant certainement sur ces sujets-là, sur l'entrée en dépendance, parce qu'on ne veut pas la regarder, cette entrée en dépendance. Puis n'oubliez pas une chose, c'est que dans le vieillissement, vous avez quelque chose par rapport, quand je reviens au logement et quand je reviens par exemple à une notion d'accessibilité de handicap, quand vous avez un handicap de naissance ou quand vous avez un handicap par accident ou par maladie, bah, vous allez rentrer chez vous, ok, votre logement il va pas du tout, vous allez l'adapter, ok, vous allez l'adapter, d'accord. Mais quand vous avez passé les, 70 ans, 80 ans, et que vous allez rentrer en dépendance, et que vous allez devoir adapter votre logement parce que la baignoire ça fonctionne plus, parce que ça passe plus dans la porte, parce que vous avez un fauteuil, on n'est pas tout à fait sur les mêmes problématiques, parce que là il y a un phénomène important qui se produit chez les personnes âgées, ce que j'appellerais moi, et ce que j'appelle le phénomène de cristallisation. C'est-à-dire que la personne âgée se cristallise de plus en plus dans ce logement, et veut surtout qu'on touche à rien. Donc on ne peut pas changer. Alors c'est bien beau de dire on va vous mettre un carrelage antidérapant, virez-moi vos tapis, virez-moi votre meuble pour agrandir la porte, sauf que sur les meubles il y avait la photo des petits-enfants, tout ça pour passer avec le fauteuil roulant, et puis ma mamie elle va me faire un syndrome de glissement derrière, donc la maison peut tuer, vous voyez. Donc c'est quand même, il faut vraiment réfléchir par rapport à ces sujets-là. Aujourd'hui il y a des solutions, c'est simplement, je pense, une question de formation et de sensibilisation.
Vous êtes d'accord ?
Alors, je suis d'accord qu'il y a un effort de sensibilisation à faire. Moi, je dirais peut-être une chose pour laquelle je risque d'être critiquée, peut-être, mais quand vous parliez de zones qui sont déshéritées, et là, on abordait la question tout à l'heure de certaines zones rurales, et il y a sans doute à repenser une réorganisation du territoire, parce qu'on ne peut pas enfin, je ne sais pas si c'est... On dépense parfois de l'argent, si vous voulez, y compris des fonds européens, etc., pour du saupoudrage, pour essayer de redynamiser ou d'arranger le bâti dans certains petits villages. Or, ça n'empêche pas que il y a énormément de petits villages qui se vident pour beaucoup de raisons. Hein, les personnes âgées, effectivement, partent. Les enfants n'ont pas les moyens et n'ont pas de travail sur place, donc ne vont pas venir s'y installer. Donc on a quand même des villages qui sont en train de mourir, et ça, on le voit dans beaucoup d'endroits en France. Et la réponse, une réponse, c'est peut-être d'organiser le territoire différemment et d'oser dire que peut-être qu'il faut sacrifier certains petits villages de façon à recréer des pôles plus dynamiques et mettre l'accent au contraire, développer des pôles pour que les petits, d'autres petits villages après viennent s'y rattacher plutôt que de faire l'inverse et de mettre de l'argent ici et là et qui ne sert pas à grand chose.
Allez, donc, une des réponses, l'intercommunalité peut-être.
Alors au moins l'intercommunalité, au minimum.
Au minimum. Juste, est-ce que dans votre développement futur, j'imagine que votre activité elle est plutôt urbaine que rurale. D'abord, est-ce que je me trompe ou pas ?
Non.
Bon, et dans ce cas-là, est-ce que vous imaginez un développement qui soit sur ces zones un peu plus rurales, un peu plus excentrées ? Parce que c'est vrai qu'après tout, les seniors dans ces zones-là, ils ont tout autant le même besoin de mobilité que les gens qui habitent en ville.
Oui, donc nous, l'objectif, c'est de répondre à la problématique de mobilité des citoyens, donc quels que soient les territoires. Donc nous, après, on a mis en place un modèle qui fonctionne en zone urbaine et périurbaine, avec des partenaires chauffeurs conformes. Et donc, l'offre est suffisante et le modèle fonctionne en zone urbaine, périurbaine. Le modèle tel quel fonctionne pas en zone rurale. Voilà. Moi, je suis pas hyper à l'aise avec le fait de dire la personne âgée qui a perdu son mari, etc., ou il y a une macro-tendance qui est que y a de plus en plus de monde dans les villes et que donc il faut favoriser ça. Il y a une personne âgée qui est en zone rurale. Pour moi, il faut lui trouver une solution de mobilité. Quand on voit les intercommunalités, il y a des logiques territoriales qui font quand même que ça fonctionne, mais il manque des trous d'offres. Il manque des trous d'offres et des trous d'offres de mobilité. Et donc, pour répondre à la question, oui, on est en train on a fait des expérimentations et on est en train de réfléchir à un modèle économique alternatif pour répondre à cette problématique, parce qu'il y a de l'offre également sur les territoires ruraux.
Alors, dans la question du jour, qui est comment les villes et les territoires répondent à l'accessibilité et aux besoins des seniors, moi, je me suis posé une question quand on a travaillé cette émission ensemble. Pourquoi un architecte ? Parce que c'est vrai que, et on avait pris l'exemple ensemble, de se dire du mobilier urbain, par exemple, le mobilier urbain, c'est le mobilier urbain. Un abribus, c'est un abribus. Alors, quel est le rôle de l'architecte, et donc de celui qui construit, de celui qui bâtit, dans cette problématique-là ?
Vous êtes parti pour 2 heures.
Mais je vous ferai plus court.
D'accord. Je pense que le travail de l'architecte, c'est vraiment ce travail-là. C'est-à-dire, on part de celui qui va gérer, qui va utiliser, qui va avoir l'usage de l'espace, et on va créer un espace qui lui convient, mais qui convient au plus grand nombre. Et le plus grand nombre, je me répète de ce que j'ai dit tout à l'heure, mais le plus grand nombre, c'est pas un homme standard à l'esprit sain et au corps sain. C'est pas ça le plus grand nombre. Il y a des grands, il y a des personnes obèses, il y a des personnes qui sont en fauteuil, il y a des personnes qui ont des difficultés à marcher, il y a des personnes qui ont des difficultés à entendre ou qui n'entendent pas, qui voient pas, bon, etc. Donc, le rôle de l'architecte, et c'est vrai que là aussi, souvent, peut-être qu'on pourrait dire, comme disait Einstein, qu'il est plus facile de briser un atome qu'un préjugé, mais c'est vrai que, en tant qu'architecte, tout au début de mon diplôme, j'étais dans cette logique-là, c'est-à-dire que l'adaptation de l'environnement, ce qu'on crée, le béton qu'on modèle, c'est quelque chose qui peut apporter de l'autonomie à une personne en situation de dépendance. Mais il a fallu 50 ans, pratiquement, aujourd'hui, pour le comprendre et pour qu'on en parle. Je vous prenais juste l'exemple, simplement, mais c'est plus personnel, il y a 30 ans, mon bureau d'études ne s'appelait pas le cabinet Tartampion, il s'appelait bureau d'études laboratoire d'accessibilité et d'autonomie. Dans ces 3 mots, j'avais tout dit. Laboratoire parce que médical, accessibilité parce que urbain, autonomie parce que ce qu'on recherche. Aujourd'hui, alors que je me suis fait, mais alors, critiquer par tout le monde, même mes secrétaires disant on n'en peut plus tellement les gens ne comprennent pas ce que vous voulez dire.
30 ans après, il n'y a qu'à se balader dans le salon, tout le monde se revendique d'accessibilité, tout le monde se revendique d'autonomie, si ce n'est pas que tout le monde se revendique de laboratoire. Il n'y avait qu'à regarder le laboratoire de l'accessibilité de la gare Montparnasse. Donc la société, finalement, a quand même véritablement évolué sur ce sujet. Et donc le rôle de l'architecte, pour en venir au rôle de l'architecte, pour moi, c'est le seul rôle de l'architecte que je peux concevoir. Alors c'est sûr, tous mes confrères ne sont pas d'accord avec moi, parce qu'effectivement, on construit aussi du beau. Là, juste pour vous dire que l'architecture dépend, si ça c'est quand même intéressant, l'architecture a toujours dépendu du ministère de la Culture, c'est-à-dire on est des artistes, avant toute chose. Mais on ne dépendra pas du ministère de l'Environnement ou des choses comme ça. On ne veut pas obligatoirement dépendre de ça. Alors que pour moi, aujourd'hui, l'architecture, c'est comme ça correspond pratiquement son équivalent dans le corps médical, avec lequel, évidemment, je suis en relation tous les jours depuis 30 ans. Eh bien, le corps médical, quand vous allez voir un médecin généraliste, vous voyez un médecin généraliste. Quand vous avez un problème au cœur, vous allez voir un cardiologue, un spécialiste, et dans plusieurs domaines. En architecture, alors qu'on fait aujourd'hui de l'architecture dans cet esprit-là, il n'y en a pas. Moi, je me revendique spécialisé dans le monde du handicap et de la dépendance, mais ça fait 30 ans. Hein, c'est donc des milliers de réalisations, ça fait 30 ans. Mais je ne peux pas revendiquer ce titre-là au titre du diplôme d'architecte, ce qui me paraît être pas vraiment correspondre à la société actuelle. Vous avez des architectes qui sont spécialisés dans le logement public, d'autres dans la construction industrielle. Voilà.
Vous avez vu que là, on n'était pas d'accord sur le fait qu'il participe à la table ronde et qu'il avait évidemment, M. Joly, des arguments, et naturellement très prégnants à faire valoir, sur le rôle de l'architecte, bien sûr, pour l'intégration des personnes âgées dans la cité. Vous vouliez réagir à ces propos,
madame? Oui, parce que moi, je voudrais remercier M. Joly pour son implication. Malheureusement, il a quand même des collègues qui ne sont pas dans la même logique. Et que même dans des nouveaux ensembles qui vont se construire, on va commettre des erreurs, c'est-à-dire qu'on ne va pas prévoir des commerces de proximité, qu'on ne va pas prévoir suffisamment de transport, qu'on ne va pas prévoir suffisamment de parking, y compris devant des zones, parce qu'on voit tellement de choses dans du neuf, hein, j'insiste bien. On voit par exemple devant un EHPAD, il ne va pas y avoir de place de parking. Or, qui vient voir les très vieilles personnes? Ce sont leurs enfants qui sont elles-mêmes des vieilles personnes et qui ont un handicap et puis ont besoin de se garer et ce n'est pas prévu. Donc il faut que tout ça, et là l'architecte, c'est primordial son rôle, il faut vraiment que...
Oui, mais vous venez simplement de dire qu'il faut éduquer la société au plus jeune âge, il faut les éduquer dans le biberon à cela. J'ai fait une visite d'un chantier on a une EHPAD et à côté intelligent quand même parce qu'il y a une crèche, donc ça c'est plutôt intelligent de mélanger les genres et de créer de l'animation et au niveau des personnes âgées. Sauf que quand vous allez visiter les appartements de l'EHPAD, on vous dit que tout est accessible et là quand vous rentrez, bon évidemment je scannerise peut-être un peu trop les choses, mais quand vous rentrez dans le détail, il y a plein de petits détails qui ne vont pas. Ça veut dire qu'on n'a pas compris. Voilà. On applique une réglementation à outrance, certes, j'ai appliqué la réglementation, mais on n'a pas compris comment ça fonctionnait.
Et au passage, vous répondez à la question du tout début qui était, mais pourquoi ça ne bouge pas autant en France? Eh bien, il y a une révolution culturelle à faire. Je voudrais vous emmener sur un autre domaine et avoir votre avis sur une question, parce que on en voit de plus en plus, ce sont les villages seniors. Ça existe, hein? Et à vos sourires, vous savez que ça existe et vous avez un avis sur la question. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, c'est pas bien ce regroupement de personnes âgées? Sur des initiatives d'ailleurs parfois privées, parapubliques ou paraprivées?
Eh bien, ça fait... C'est un peu particulier quand même. C'est-à-dire que quelque part, c'est un ensemble de personnes qui se met à l'écart de la société, qui a peur de la société. Alors ça va complètement à l'envers de tout ce qu'on vient de dire depuis le début de cette table ronde, à savoir que c'est, notre vision, elle est une vision d'intégration. Donc là, voilà, on ne peut pas être pour à ce niveau-là.
Et là, c'est de l'exclusion, pour le coup.
C'est de l'auto-exclusion.
Oui, mais on est encore dans un problème global de société qui, aujourd'hui, nous claque au travers de la figure, c'est-à-dire sur des choses qu'on n'a pas forcément réellement pris en compte dans l'ensemble d'une prospective d'avenir, et où, effectivement, bah, au-delà de ça, il faut régler des problèmes de sécurité. Donc, derrière, évidemment, d'insécurité des personnes âgées, puisqu'elles sont encore plus fragiles que les autres. Donc, elles se protègent, elles se font attaquer dans les rues. On n'a pas forcément de réponse sociétale derrière ça, où on ne veut pas trop les donner, où c'est compliqué. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment une réflexion, encore une fois, transversale, bien sûr, transversale, mais globale. Et la personne âgée comme la personne handicapée est presque un agitateur aujourd'hui de la société française pour prendre les bonnes mesures pour créer un urbanisme, un développement du territoire. Demain, il faut en parler. Sauf que on a intégré dans les cahiers des charges, il y a quelque temps, encore une fois, par la loi de 2005, on a intégré, mais à force de volonté d'un certain nombre d'acteurs, des bureaux d'études d'usage. On en parle aujourd'hui des bureaux d'études d'usage. Donc des gens qui vont aller parler d'usage, des gens, et alors que vous êtes en train de faire un projet. Mais ça reste limité. Et quand vous êtes même dans des collectivités qui passent des appels d'offres, quand vous commencez à dire... Je ne parle pas de chez nous, mais je vois sur le territoire un certain nombre de figures comme ceci. Eh ben, c'est compliqué à intégrer. On ne comprend pas bien pourquoi. On ne sait pas quelles vont être les réponses. C'est bien dommage.
Révolution culturelle, encore une fois. Mais en tout cas, village senior, pas vraiment une bonne idée.
Juste en deux mots. Si vous voulez, j'ai vu ça dans des petites villes. Là, on construit un quartier, donc, et puis on affiche bien que c'est pour des seniors, comme ils disent, en pleine santé. Et c'est sympathique pour les autres. Mais le problème avec ce type, la solution, elle est dans l'intergénérationnel. Parce que si on veut s'inscrire aussi dans quelque chose de durable, eh ben, il faut que ce soit dans l'intergénérationnel. Parce qu'un quartier qui va vieillir, eh ben, ça sera, il n'y aura plus rien. Alors que si on est dès le départ dans l'intergénérationnel, eh bien les gens vont les enfants vont grandir, les gens vont vieillir, etc. Donc on construit en même temps quelque chose de durable.
Le lien, c'est monsieur avec ses taxis. C'est-à-dire qu'on passe, encore une fois, d'une verticalité où on a un problème de crèche, on va régler le problème de crèche, on a un problème d'EHPAD, on va régler un problème d'EHPAD, et on va régler ça comme ça. Et on ne va jamais voir le lien qu'il y a entre ma crèche et mon EHPAD. Alors on commence aujourd'hui, mais plus... souvent, parce que effectivement, ça fait tendance. Mais est-ce qu'il y a une vraie réflexion de fond derrière ça ? Bien sûr qu'il y a quand même des réflexions de fond. On ne peut pas tout jeter au bain. Hein. Mais quand même, ce n'est pas la majorité. Et c'est là où, effectivement, ce mouvement, je dirais presque, de l'accessibilité positive est très important.
Sur l'accessibilité, et pas que architecturale des choses, il y a des choses qui se mettent en place aussi pour mieux accueillir les seniors dans la cité. Je pense, par exemple, aux conseils municipaux des aînés, je crois que ça s'appelle comme ça, le conseil des aînés, où on leur demande de prendre part à la cité et où on leur demande leur avis. D'ailleurs, c'est quelquefois couplé avec des conseils de jeunes. C'est une bonne idée, ça aussi, ou pas du tout ? Pour mieux les intégrer, pour mieux prendre en compte également leurs besoins, parce que ça marche aux deux entrées.
Moi, je trouve que, bon, à partir du moment où les gens sont volontaires et puis qu'ils veulent s'exprimer, ça fait partie, effectivement, de la participation à la citoyenneté. Hein. Bon, il y a des tas de villes qui font ça. Ils appellent plutôt ça des conseils des aînés, effectivement. Il y a des tas de villes en France qui le font. Hein.
Est-ce que c'est bien ? C'est ça, la question. Parce qu'on peut être nombreux à se tromper. Hein, donc là,
non, mais je vous dis, c'est bien si les personnes ont envie de le faire et puis qu'elles sont consultées, on les entend... Pourquoi pas ? C'est toujours bien de...
Alors, je vous ramène à la réglementation de 2005. La réglementation de 2005 a dit, pour les communes de plus de 5 000 habitants, vous devez créer ce qu'on appelle une CCA, une commission communale d'accessibilité, qui, à l'intérieur de laquelle, doit avoir des représentants de la vie publique, dont des personnes handicapées, etc. Elle s'appelait CCAH, commission communale d'accessibilité handicapée. Et puis, il y a peu de temps, il y a 2 ans, hein, on a enlevé le mot H handicapé et on a réintégré dans une autre formulation de cette commission communale d'accessibilité, toujours pour les villes de plus de 5000 habitants, avec l'intégration à l'intérieur des personnes âgées, des gens du public, c'est-à-dire du secteur marchand, etc., pour qu'ils puissent réagir par rapport au fonctionnement de cette commission communale d'accessibilité. Qu'est-ce qu'une commission communale d'accessibilité ? Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Elle a un rôle consultatif au sein d'une commune, au travers des projets qu'on peut lui amener, sur lesquels elle va faire des observations, bien sûr en termes d'accessibilité. Elle est le garant de l'accessibilité, je dirais, de la commune. C'est pas elle qui traite, c'est pas elle qui donne les avis, c'est le département. Mais c'est les services de la préfecture. Mais elle est là pour le faire. Et donc, plus elle sera dynamique, plus elle fonctionnera, plus on en fera un outil dans les communes, pour qu'effectivement, eh ben, ça sensibilise. Nous, on a sur notre commune, elle fonctionne tous les mois. Donc, c'est un peu exceptionnel, c'est assez rare. Ça fonctionne plutôt une fois par an que tous les mois. Ce qui est bien dommage, parce que c'est un vrai outil. C'est un véritable outil de partage et de discussion. Et là, vous allez aller au-delà de la réglementation. Parce que quand vous allez discuter d'un projet, vous aurez une personne âgée qui va vous dire... Et on est à l'échelle de la commune. On est vraiment dans l'échelle de base du quartier. C'est là où on vit.
C'est là où ça se décide.
Et c'est là où, en tout cas, les problèmes naissent. et où on peut aussi discuter avec les personnes avec des typologies de handicap différentes et justement pondérer les choses qui sont susceptibles d'être faites et ne pas avoir des positions parfois trop avec entre guillemets ayatollah sur des demandes qui pourraient être intéressantes pour une personne, une typologie de handicap et pas une autre. Là, on est dans le champ de la dépendance.
Merci, vous vouliez réagir.
Je pense aussi qu'il y a des petites villes qui ont effectivement des conseils des aînés, mais des toutes petites villes, mais pas dans ce cadre-là. Il y en a qui le font en plus.
Oui, oui, mais bien sûr.
On va sortir de ce cadre-là. Je voulais juste avoir votre réaction. Mais a priori, c'est pas mal de les faire participer à la vie de la cité d'une manière ou d'une autre, qu'elle soit réglementée.
Aujourd'hui, c'est une obligation.
Voilà, c'est réglementaire, mais ça peut être aussi une initiative qui va au-delà du règlement, et c'est pas plus mal. Alors, on va essayer maintenant, dans les quelques minutes qui nous séparent de la fin de cette conférence, de se projeter, de faire un peu de prospective. Et là, je vais me tourner vers le chef d'entreprise que vous êtes. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que serait votre activité dans les 10-15 ans qui viennent à destination des personnes âgées, dépendantes ou qui demandent une mobilité, enfin qui ont un besoin de mobilité particulier ?
Vaste question. Comment dire ? Alors, le besoin des personnes, c'est de pouvoir se déplacer en toute liberté, en toute autonomie. Aujourd'hui, sur le marché, quand on n'a plus la possibilité de se déplacer avec sa voiture parce qu'on n'a pas eu le permis, son mari est parti, ou que les transports en commun ne sont pas adaptés, on a le choix entre des offres où il y a soit juste du transport, type Uber, mais c'est pas suffisant, soit du transport accompagné, comme des services de transport à la demande proposés par des collectivités ou autres services. Mais ce sont des services, qui sont stigmatisants, souvent, en général même, où il y a écrit « je suis vieux ou je suis handicapé sur le véhicule », c'est ce qu'on voit partout. Ce sont des services qui coûtent cher à la collectivité. Pourquoi ? Parce que le modèle d'exploitant coûte cher, tout simplement, qui sont rigides pour le citoyen, parce que ce modèle d'exploitant est rigide. Et donc, du coup, si j'ai besoin d'un transport pour demain, bah, ça ne marche pas. J'ai besoin de réserver une semaine ou 15 jours à l'avance. Voilà. Donc, l'offre n'est pas satisfaisante économiquement et en termes de service pour les personnes âgées.
Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que vous pourriez proposer demain ?
Oui. Alors, ce que je crois, c'est que d'une façon générale, on était dans l'ère le siècle de la voiture, de l'émergence de la voiture, et on est rentré dans le siècle de l'optimisation de la voiture. Je vais pas y passer trop de temps, mais il y a 1 milliard de voitures sur la planète. Une voiture est utilisée à 1% de sa capacité, c'est-à-dire qu'elle est garée 95% de son temps, et en moyenne 1,1 ou 1,2 passagers par véhicule. Donc elle est utilisée à 1% de sa capacité, c'est-à-dire qu'on peut théoriquement multiplier par 100. Admettons qu'on multiplie par 20 ou par 30, on résout tous les problèmes de mobilité de la planète. Donc moi, ce que je crois, c'est que fondamentalement, il faut être dans une logique d'optimisation des ressources. Donc nous, c'est l'idée de base, hein, c'est-à-dire que au-delà de proposer un service de transport accompagné, parce qu'on estime que le transport est important, mais que l'accompagnement est primordial pour répondre aux besoins des personnes âgées, on regroupe, on optimise les personnes dans les véhicules, parce que ça répond à la problématique économique des collectivités et des citoyens, et que ça crée du lien social. Donc moi, je dirais que la grande tendance, c'est celle-ci, c'est de favoriser la mobilité partagée en optimisant les ressources existantes.
Alors, au-delà de cet aspect, merci hein, de vous être projeté à 2030. Je sais, hein, pour un chef d'entreprise, c'est plutôt en général la fin de l'année avec le bilan. Mais
ouais, c'est en cours, en fait.
Mais on a fait un peu de prospective. Alors, sur d'autres registres, et en particulier, par exemple, pour tout ce qui touche aux services à la personne, et ça tombe bien, on est aussi sur un salon des services à la personne, est-ce que les services à la personne pour les personnes âgées, qu'elles soient dépendantes ou non, pour vous, madame, monsieur, vont évoluer aussi, et si oui, vers quoi ?
On a vu beaucoup de choses intéressantes, effectivement, sur le salon. Je pense qu'on va vers beaucoup de produits connectés. Bon, il ne faut pas non plus qu'on aille trop vers trop de gadgets. Hein. Je pense qu'il y a des choses qui seront des choses de base. Je pense qu'il y aura des aides. Il y aura énormément d'aides. Et ça, c'est très bien. Mais on ne remplacera jamais le contact. Et alors, là, c'est vraiment très personnel, hein, mais moi, le risque que je vois, c'est qu'on enferme encore plus, et quand on voit les jeunes là sur leur smartphone, qu'on voit les personnes âgées avec leurs robots, et puis que du coup, on se contente de relations finalement virtuelles. Et la personne qui vient à domicile, qui parle, qui rencontre, j'espère que ça ne disparaîtra pas.
Donc c'est bien parce qu'on parle de technologie mais on parle, et d'optimisation des ressources, mais on parle aussi de l'être humain et de développement.
Humain. On est quand même avant tout des êtres humains, mais on a besoin de toutes les aides. Bien évidemment que régler la température, etc. Enfin, tout ce qu'on peut faire au terme de domotique, il y a des tas de choses qui sont très bien. Il ne faut pas aller non plus dans le gadget inutile, il faut conserver le lien.
On parle beaucoup de technologie numérique, là on parle que de ça, mais on n'a jamais vu deux algorithmes se mettre d'accord pour créer une entreprise. D'abord des êtres humains qui créent des entreprises, et nous on est des êtres humains. Et donc on a besoin aussi de parler à des êtres humains. Donc la technologie est très utile quand elle rend des services. Et voilà, donc on est dans cette période-là, mais ça
évolue. Sauf qu'on avance très vite, et que demain, vous serez en ménage à trois avec votre robot humanoïde. Donc il faut aussi prendre cette dimension-là. Parce que c'est une dimension qui est essentielle et importante. Et quand on est passé de la domotique à la robotique, la domotique, ça m'est arrivé d'en discuter, effectivement, avec des services à la personne. Simplement pour revenir très vite sur les services à la personne, aujourd'hui, la France était en retard sur les services à la personne. On voit que ça se crée, on voit qu'il y en a de plus en plus. Donc c'est plutôt rassurant, parce qu'il faut toujours du lien de service. L'accessibilité, ça ne fait pas tout. Il faut derrière qu'il y ait du service. Ça, on ne l'a pas tous compris, mais il faut quand même qu'il y ait du service derrière. Donc ces services à la personne, c'est très bien. Sauf que les services à la personne, il faut aussi aller voir comment ça fonctionne. Hein, il nous faut presque, là j'ai vu qu'il y en avait, mais des cabinets d'avocats pour gérer le service à la personne, parce que là aussi, quand une personne, elle vous rend pas le service que vous devez attendre, quand elle va vous piquer dans le portefeuille, quand ceci et cela, qu'est-ce que vous faites? Comment vous réagissez? Comment la société a adapté son droit pour pouvoir effectivement réagir par rapport à ça? Alors c'est bien d'offrir des services à la personne, mais derrière il faut aussi aller voir réellement comment ça fonctionne sur le terrain et comment nos personnes âgées dépendantes ont parfois des difficultés et qu'elles n'osent pas le dire. C'était sur le sujet des services à la personne qu'il faut néanmoins continuer, faire avancer le sujet et surtout voir l'encadrement juridique. Ensuite...
J'allais vous interroger en tant qu'architecte, parce que ce que je voulais avoir... La vision que je voulais que vous, oui. parliez, que vous donniez, c'est évidemment celle de la ville de demain pour les, oui. pour les seniors.
Oui, mais la ville de demain... Mais ça rebondit à chaque fois, les questions que vous posez par rapport à ce sujet qui est passionnant. C'est que même, par exemple, je reste encore 30 secondes sur les services à la personne. Une personne qui vient faire la toilette d'une personne âgée, alors qu'on fait des douches, on dit qu'il faut une douche en siphon de sol, mais on continue à dire que la douche en siphon de sol, elle fait 80 par 80. Déjà, quand on a un prix peu de surcharge pondérale, qu'on est âgé, etc., on ne rentre pas dans la douche de 80 par 80. Si on doit être assis sur un siège de douche, alors là, c'est mort. Et puis la tierce personne, elle a intérêt à venir avec ses palmes et son maillot de bain et son tuba pour faire la douche. Donc, on n'a pas pris ça en compte. Et l'adaptation de l'accessibilité du logement, c'est aussi de dire que la tierce personne va être obligatoire dans ce cas de figure et qu'il va falloir peut-être faire une douche de 120 par 120 ou 150 par 115, 150. Vous voyez? Donc, on est là-dessus. Maintenant, la domotique, la robotique. La domotique, je ne vais pas vous faire l'historique de la domotique, mais la domotique, on n'aura pas le temps. Vous êtes obligé d'appuyer sur un bouton pour que ça fonctionne. OK. Alors, on a parlé de la domotique. Quand on a commencé à parler de la domotique, c'était à destination des industriels, hein, c'était pas des personnes handicapées. Il y avait très peu d'industriels. Ça a démarré dans la région de Niort avec Ségolène Royal. Ensuite, on a dit, deuxième année, on a dit la domotique au c'était la panacée, le frigidaire qui allait se remplir tout seul. Ensuite, on est passé à la maison intelligente. Ensuite, on est passé au profit des personnes handicapées. Il n'y avait plus personne dans la salle. Et après, quand on a commencé à dire effectivement il va y avoir tant de millions de personnes âgées, là, les industriels sont revenus. Et c'est comme ça qu'a démarré la domotique. Mais aujourd'hui, on est dépassé, on est largement au-dessus de cela. Votre domotique, c'est terminé avec les nouvelles technologies. Alors oui, on allume, on est dans les objets communicants. Pourquoi les objets communicants? Parce qu'on a encore évolué sur une autre branche. C'est la branche de la robotique.
Je vais être obligé de reposer ma question pour que vous puissiez répondre.
Donc,
à cette
la robotique de demain.
Avant que l'on conclue, comment vous voyez la ville de demain, monsieur?
Je vois la ville de demain avec, effectivement, des logements qui soient évidemment plus adaptés à la population, qui vont être de plus en plus petits parce que les villes vont de plus en plus s'organiser et vont accueillir de plus en plus de population. Et donc... son corollaire de population âgée. Et donc, ça veut dire que ce développement de la robotique est quelque chose d'essentiel et d'important pour pouvoir répondre, pour pouvoir aussi créer le lien. Mais ça veut dire qu'en parallèle, et ce que peut permettre de faire aujourd'hui les nouvelles technologies, c'est que tous les services qui sont évoqués, comme le service de taxi qui va au-delà du taxi, parce que quand vous créez ce service-là, vous commencez par le lien social. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société, et c'est grâce à nos jeunes,
Nos jeunes sont dans ce schéma-là. Et nos jeunes nous forcent à nous adapter, et vont nous forcer, pas nous forcer, vont nous forcer à nous adapter comme ça. Puis nous, on sera out. Mais c'est eux qui vont recréer ce lien social obligatoire pour eux s'ils veulent survivre. Voilà ce que je voulais dire.
Eh bien, écoutez, on va garder cela comme le mot de la fin parce que ça, c'est plutôt rafraîchissant. Ce sont les jeunes qui vont être à la manœuvre. Il faudra du lien social humain. Et après tout, la technologie, ça viendra après. Nous vous remercions d'avoir participé à cette table ronde, madame, messieurs.